Bonjour tout le monde, ici Marthe Saint-Laurent. Vous écoutez l'émission Vivement les femmes depuis le studio de Rimouski. Aujourd'hui, je reçois la fondatrice de l'entreprise Corps Créatif, Mélina Castonguay. Mélina vit avec la sclérose en plaques, ce qui l'a amenée à découvrir une approche corporelle qui lui a fait du bien. C'est pourquoi elle a voulu la faire connaître au plus grand nombre de gens. Déjà sage-femme, mon invitée est devenue professeure certifiée d'éducation somatique, dont le mot-clé est l'autocompassion. Bonjour Mélina Castonguay, bienvenue à Vivement les femmes. Alors, Mélina, j'ai voulu vous recevoir parce que je ne connaissais pas du tout l'éducation somatique qui est au cœur de votre entreprise. Or, vous avez découvert cette approche parce que vous vivez avec la sclérose en plaques.
Oui, tout à fait. Dans le fond, puis il y a beaucoup de gens qui découvrent cet univers-là, parfois par la douleur, par des maladies. Et ça fut une révélation pour moi. Puis c'est devenu vraiment une passion de découvrir l'univers de l'éducation somatique.
Et à quel âge vous avez reçu le diagnostic?
Donc, j'avais environ 27 ans. Donc, c'est avant d'avoir mes enfants. Donc, j'ai deux enfants. On pourra en parler tout à l'heure.
Oui.
J'étais, là, dans le fond, la dernière année de mon baccalauréat en pratique sage-femme au moment du diagnostic.
Mm-hmm. Et comment on réagit quand on reçoit un diagnostic pareil?
Je pense que ça se digère au fil des années. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on digère d'un seul coup. Hein. C'est sûr qu'il y a un choc. Il y a beaucoup de couches. Au début, je dirais que j'étais plus absorbée par l'annonce à ma famille.
Ah, pour vrai?
Paradoxalement, parce que... Moi, j'avais des symptômes, donc je me rendais compte qu'il y avait des choses qui fonctionnaient moins bien au niveau corporel, je pourrais en parler. Mais ça a été la première chose, c'est de me dire... J'ai dû me bâtir un peu une carapace au départ pour l'annoncer. L'annoncer à ses parents, c'est quand même difficile de dire, bien, comme enfant, on ne veut pas faire de la peine à ses parents. Mm-hmm. Et ça a été la première étape. Puis le diagnostic, je le vis par étape, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une petite ou une moyenne mauvaise nouvelle, mm-hmm. ben je revis finalement un peu cette adaptation-là par rapport à la perte de certaines capacités. Mm-hmm.
Et quels sont les symptômes, justement?
Bien, en fait, je vais commencer par le plus rude. En fait, je vais briser la glace. Donc, les premiers symptômes que moi, j'ai eus, c'est des symptômes d'incontinence. Donc, carrément, là, on plonge tout de suite dans la matière, mais dans le fond, au niveau urinaire et au niveau fécal. Et je prends la peine de le nommer en premier parce que c'est un symptôme qui est gênant, mais c'est aussi un symptôme qui est tabou. Et j'ai appris plus tard que c'est le premier symptôme en général chez les femmes. Et ça prend du temps à diagnostiquer, entre autres parce qu'il y a une certaine gêne de dire, ben là, j'ai une selle sans avoir la capacité de me rendre dans la salle de bain. Mm-hmm. Quand tu as 20 quelques années, c'est pas normal. Mais avant de dire, je vais consulter pour ce symptôme-là, c'est comme
on
si
pense
on a besoin.
C'est un problème intestinal.
Mais un problème, peut-être? Dans le fond, c'est ça. Je pense que comme être humain, on se dit pas qu'on vit avec une maladie. Mais donc, avant de se rendre à une évidence qu'il y a une problématique plus majeure, on cumule certains symptômes. Mm-hmm. C'est ça. Donc, ça, c'est un symptôme qui était présent.
Et ce n'est pas présent chez les hommes, si je comprends bien.
Dans le fond, la sclérose en plaques, donc, juste situé, il y a 3 femmes pour un homme qui va vivre avec la sclérose en plaques.
Ah oui?
Et ce que j'ai compris là, de ce que j'en connais, c'est vraiment chez les femmes, ça va être plus présent, là, ces symptômes urinaires fécaux. Et c'est aussi, je ne sais pas s'il y a d'autres enjeux comme la capacité d'en parler, d'ouvrir sur ça. Puis aussi, s'il y a une méconnaissance, parce que moi, j'avais consulté certains professionnels, acupuncteurs, d'autres professionnels autour de la médecine, je pourrais dire. Et il n'y a personne qui a allumé que c'est pas normal d'avoir des douleurs. Ces douleurs-là, j'avais des douleurs un peu dans le dos, tout ça, à cet âge.
Donc, ben oui, 27 ans. Est-ce qu'il y a une espèce de statistique pour l'âge, justement?
Oui, c'est ça. Dans le fond, la majorité des diagnostics pour les femmes vont être entre 20 et 40 ans. Ah, donc, j'étais vraiment dans un âge... Souvent, les gens me disent « t'étais jeune, 25, 27 ans pour avoir la sclérose en plaques ». Non, justement, c'est vraiment une maladie qui... qui apparaît ou dont les symptômes se développent, ben, sont apparents à cet âge.
Est-ce qu'on connaît un peu la
le
racine?
Pourquoi? Oui, c'est ça. C'est pas tant génétique. On sait que les gens autour de l'Équateur sont beaucoup moins affectés. Donc, la carence, par exemple, en vitamine D, on est dans un pays où l'hiver, on ne reçoit pas de vitamine D. J'aime ça aussi éduquer les gens sur le fait que même si tu vas dehors l'hiver, là, l'angle du soleil ne te donnera pas ta vitamine D. Donc, je suis quand même sensible à cette idée-là de ce supplément-là alimentaire et vitaminique. Et dans le fond, ça semble être géographique. Mm-hmm. Après ça, outre la vitamine D, j'ai pas plus d'informations, mais c'est quand même un point de départ important à considérer.
Et puis tantôt, vous parlez de stade. En fait, il y a des étapes dans cette maladie.
Oui, je parlais au stade au niveau du deuil ou de l'acceptation. Oui. Mais il y a aussi, dans le fond, c'est une maladie auto-immune. Donc, c'est une maladie, c'est comme le corps qui s'attaque à lui-même. Et c'est une maladie dégénérative. Ça veut dire qu'on peut vivre des plateaux et tant mieux, la médication est là pour aider à maintenir. Mais c'est une maladie où on va tendre à perdre des capacités plus rapidement que la vieillesse habituelle.
Et quand on parle de capacité, est-ce que c'est seulement corporel, comme avoir des douleurs dans le dos ou à marcher?
Ça peut être variable. Donc, en fait...
La vue et tout, est-ce qu'on perd ça aussi?
Puis, l'autre chose que j'aime partager, c'est que le premier symptôme de la sclérose en plaques, c'est la fatigue chronique. Parce que souvent, on voit sclérose en plaques, on voit les gens en chaise roulante. C'est vrai que ça affecte beaucoup les membres inférieurs, mais la fatigue chronique, c'est très incapacitant et c'est aussi partiellement invisible. C'est comme vivre avec quand on se repose pas suffisamment, puis on a de la misère à se reposer aussi, c'est pour trouver des stratégies. C'est qu'on vit un peu comme avec un voile devant les yeux, finalement, qui vient nuire à notre capacité de se concentrer. Juste par exemple, des choses comme conduire, ça peut être un défi pour quelqu'un qui a une maladie neurologique, parce que ça demande beaucoup de concentration. Et lorsqu'on vit de la fatigue, on peut se sentir plus insécure dans ce type d'activité-là.
Oui, absolument. Et est-ce que la méditation règle tout?
C'est sûr que la capacité de gérer un peu nos pensées, nos émotions, en fait, d'éviter les pensées parasites, c'est sûr que c'est des choses qui vont nous aider à avoir une pensée aiguisée. Donc, pour la capacité à pouvoir effectuer des tâches avec concentration, effectivement, ça peut aider. Au niveau de la maladie en elle-même, j'ai pas de données sur la méditation puis l'évolution de la maladie, mais cependant, j'ai su cette année que l'activité physique espaçait les poussées. Donc, ça n'empêche pas qu'il y ait une évolution de la maladie, mais ça ralentit nettement l'évolution de la maladie. Donc, c'est sûr que c'est une voie encouragée pour les gens qui ont la sclérose en plaques. Et c'est aussi, en même temps, paradoxalement, un défi, dans le fond, quand on a la sclérose en plaques, si on a un réservoir d'énergie qui est plus faible que la moyenne, ça demande vraiment une certaine décision de dire, OK, je vais bouger dans ma journée. Et c'est même recommandé, là, j'avais discuté avec une kinésiologue, de bouger au moment où est-ce qu'on a le plus d'énergie. Ça demande, j'ai envie de dire, de l'audace, parfois, de dire, moi, à 8 heures le matin, la chose que je vais faire, c'est de prendre du soin pour l'activité physique. Ça demande un certain courage tout en convenant travail et gestion de la maladie.
Ah, Et là, je vous amène tout de suite. Qu'est-ce qui a été un élément déclencheur pour que vous découvriez, en fait, l'approche Feldenkrais?
Oui, c'est ça.
C'est pas évident à prononcer.
C'est bon, vous l'avez bien eu. Dans le fond, qu'est-ce qui m'a amené à le découvrir, finalement? Oui, c'est ça. Il y avait des stages donnés par Hélène Lévesque, qui enseigne à Rimouski, et elle donnait des ateliers sur la marche. Donc, c'est sûr que comme j'avais déjà, en 2015, quand j'ai découvert cette approche-là, des enjeux au niveau de la marche, c'est mon conjoint qui m'en a parlé, puis je me suis inscrite, puis ça a été rapidement un coup de cœur, parce que je pouvais retrouver de l'aisance et même de la grâce dans le mouvement grâce à des activités qui étaient simples. C'était une vraie découverte.
Mélina Castonguay, en début d'émission, j'ai parlé que vous étiez professeure certifiée en éducation somatique. Alors, parlez-nous de cette approche. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté?
Je vais vous en parler avec plaisir de ce que ça m'a apporté. Je commencerai peut-être par définir qu'est-ce que l'éducation somatique pour les nouvelles personnes. Je reprends en fait une citation en fait d'Yvan Joly et d'Odile Rouquier, qui sont professeurs d'éducation somatique, qui ont été des élèves de Moshe Feldenkrais. On pourra en parler tout à l'heure. Alors, l'éducation somatique, c'est le champ disciplinaire d'un ensemble de méthodes qui ont pour intérêt l'apprentissage de la conscience du corps vivant, ce qu'on dit le soma, en mouvement dans l'environnement. Donc, tout ça pour dire que, comment je le décrirais dans mes mots, l'éducation somatique, c'est la compréhension du corps vivant, du corps en mouvement, c'est une conscience du corps. Et il y a deux mots dans l'éducation somatique. Donc, il y a le mot éducation, puis c'est ce qui permet de distinguer cette approche-là de beaucoup d'autres approches corporelles. C'est qu'on vise à soutenir l'apprenant, la personne qui suit un cours, dans sa compréhension d'elle-même. Donc, on ne vise pas nécessairement une pratique pour achever un mouvement précis, particulier. On est plus dans le jeu, dans l'exploration, dans la compréhension de soi. Il n'y a pas un bon ou un mauvais mouvement. On est davantage concentré sur l'observation de soi. Et somatique, ça veut dire le corps vivant, le corps en mouvement.
Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui distingue, parce que vous parlez beaucoup de mouvement, qu'est-ce qui distingue cette technique, cette méthode du yoga ou du tai chi?
Oui, oui c'est ça. Bien, comme je disais un peu, c'est l'aspect éducation. Et c'est, par exemple, dans une séance, on ne s'intéresse pas... je vous donne un exemple concret, rapidement. La dernière séance que j'ai enseignée, j'enseigne à des gens qui ont la sclérose en plaques. Puis, à la fin de la séance, une personne me dit, « Pourrais-tu nous dire quand il faut inspirer et quand il faut expirer? » J'ai dit, « C'est un excellent exemple de qu'est-ce que l'éducation somatique. » Donc, par exemple, en yoga, parfois, on a un moment où on doit inspirer. Par exemple, on lève le bras, on invite une inspiration, mm-hmm. on baisse le bras, on invite une expiration. Si on faisait la même chose en éducation somatique, ce qu'on ferait, c'est qu'on dirait aux gens, ben faites ça. Levez le bras en inspirant, faites une pause, baissez le bras en expirant. Et là, c'est là que le travail commence. On dirait, cette fois, faites l'inverse. Levez le bras en expirant et inspirez en descendant le bras. Les gens sont souvent confus sur le coup, et quand les gens sont dans le flou, dans la recherche, je leur dis, vous êtes exactement en train de faire le travail qu'il faut. Parce que en éducation somatique, on s'intéresse aux habitudes. Et les habitudes sont vraiment, elles sont très ancrées en mm-hmm. nous, parce qu'on peut les répéter pendant des dizaines d'années sans même les remettre en question.
Est-ce qu'on peut dire qu'on fonctionnement. Défait?
Effectivement, dans le fond, on a un travail neurologique, on travaille avec la neuroscience, on veut en fait brouiller les cartes volontairement afin de se permettre de réexplorer. Parce qu'on a perdu un peu comme adulte cette capacité-là de dire, je vais m'amuser moi à lever mon bras puis à découvrir comment je pourrais lever mon bras mm-hmm. à 30, 40, 50, 60 ans. Et au-delà. Donc, on vient d'a... Il y a toutes sortes de techniques qu'on utilise, dans le fond, ce brouillage mm-hmm. de cartes-là, la différenciation des mouvements, puis de refaire autrement.
Oui, ça, on va voir un peu plus tard.
Oui, parfois.
Quoi consistent les cours que vous offrez?
Oui.
Si on va y aller plus tard. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Tu sais, si vous aviez une image du avant et du après, cette technique, dans votre corps et aussi dans votre façon de penser?
Assurément, la bienveillance envers moi-même, puis aussi l'apprentissage de la lenteur. Donc, je suis comme individu, comme personne, je suis quelqu'un mm-hmm. qui a envie de faire des projets, d'aller vite un peu. Et clairement que la sclérose en plaques me ralentit. Donc, je n'irai pas dans une grande analyse de la chose, mais ça m'a mis un frein quand même à tout ce que je voulais développer. J'avais comme, une grande hâte de vivre toutes sortes de projets. Et tant mieux, j'en ai vécu plusieurs. Donc, l'apprentissage à la lenteur, c'est quelque chose qui est au cœur de cette pratique-là qui m'a énormément apporté. Également, avoir de la bienveillance envers moi-même. Par exemple, lorsque j'enseigne, on commence le cours par observer nos pensées, la respiration, nos émotions, et on essaie aussi d'apporter une lunette de bienveillance en disant, peu importe avec quoi j'arrive aujourd'hui, puis-je être dans l'accueil, un peu comme une meilleure amie qui serait à côté de moi, qui me donnerait une bonne tape dans le dos, qui dirait, c'est pas grave si tu sens X, Y, Z, on part de là, puis on verra comment ça évolue, parce que quelque chose qui caractérise les enseignements que je vais faire, c'est on va regarder au début qu'est-ce qu'on fait et à la fin également. Donc, on fait comme un voyage, mais on regarde notre état de départ, notre état de fin.
Est-ce que ça enlève de la douleur?
Les gens le rapportent, puis je le sens, ressens aussi beaucoup, effectivement, le fait de changer de rythme, certainement, parce que j'ai l'impression qu'on a une société qui veut aller vite, qui veut produire constamment.
Tout à fait.
Donc, le fait d'aller lentement, et quand je dis lentement, je dis extrêmement lentement. Et à titre d'anecdote, mon conjoint, un de ses amis, parce qu'on est plusieurs amis à aimer l'éducation somatique, et on fait parfois rire de nous, parce que parfois, ils disent des choses comme « si vous faites de l'éducation somatique, on le sait parce qu'on ne voit rien ». Donc, parfois, on va tellement lentement que c'est presque imperceptible au regard des autres. Et parfois, les pratiques vont être carrément en visualisation guidée. Donc, de se permettre ce niveau de lenteur-là, pour moi, c'est radical, voire révolutionnaire, et c'est prometteur.
Est-ce que c'est aussi compliqué de ralentir à ce... aussi presque, en fait, dans l'immobilité que de commencer à méditer ou... Tu sais, c'est quand même...
C'est très difficile.
C'est un peu près, hein?
Et... pour le voir, quand je suis dans des classes avec des étudiants et étudiantes, c'est inconfortable également. Donc, c'est ennuyeux, en fait. C'est tellement lent.
Mais vous ne nous donnez pas envie.
Non, mais en fait,
c'est une blague.
Non, je sais. Mais j'apprends à le nommer dès le départ. J'ai dit, au départ, ça sera peut-être ennuyeux. En fait, c'est que l'esprit veut vagabonder, il veut aller plus vite. Mais le bonbon vient un peu plus tard. C'est des séances d'une heure, par exemple. Et il vient au moment où est-ce que enfin on touche à... On ressent les choses davantage, on agit, on fait un geste en ressentant qu'on respire en même temps. C'est ça qui est savoureux. Mais ça prend quand même un investissement de soi.
Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui abandonnent votre cours?
Parce qu'ils voient pas plein cours. Ça m'arrive régulièrement.
Ah oui? En plein cours?
Et là,
comment vous faites
je
pour
le prends
pas
le personnel.
Oui, voilà,
non,
comment vous
faites? Vous voyez, c'est justement, je me dis, j'ai appris quelque chose. Par exemple, j'ai enseigné hier, il y a deux personnes dans mon cours qui ont quitté en cours de route. Puis j'ai réussi à le tourner un peu à la blague à la fin en leur disant, vous voyez, c'est assez ennuyeux. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux retirer de ça? Bien, c'est peut-être juste d'avertir quand même au départ que le bonbon, il est à la fin. Hein, fait que je peux comprendre, mais c'est... Vous voyez, j'ai peut-être intégré quelque chose, c'est-à-dire cette compassion-là envers moi-même, de dire, bien, l'important, c'est d'apprendre. Puis je ferai un petit parallèle avec une autre pratique qui est complètement différente. On a fait de la poterie avec un potier. David Booth nous a accueillis avec générosité chez lui. Et il a dit, quand on fait une pièce, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec, ce n'est que de l'expérimentation. Je verrai le parallèle avec l'éducation somatique.
Et pourquoi cette formation-là est peu connue? On n'en parle pas beaucoup.
C'est vrai, hein? Peut-être qu'on a en aversion pour la lenteur, je ne sais pas. Pourtant, mais par exemple, Hélène Desvailles, qui enseigne depuis, je crois, une trentaine d'années, a plus d'une centaine d'étudiants à Rimouski quand même. Donc, il y a une certaine popularité. Mais je dirais que pour s'astreindre à la lenteur, il faut vivre des chocs. Il faut vivre des défis parce que sinon, on n'en voit pas nécessairement l'utilité. Oui. Donc, ça va être soit le vieillissement, ça va être soit des atteintes physiques, neurologiques ou autres. Et là le bonheur des bénéfices se révèle à nous. Je crois que ça serait utile pour tout le monde. Mais parfois, justement, quand on va vite, on prend pas ce temps-là nécessairement pour voir.
En combien de temps, à peu près? Combien de cours on peut voir un petit résultat?
On peut vivre un cours de 5 minutes et être habité par ça pendant des années. Je suis convaincue. En fait, j'ai certains partages, certaines réflexions. J'ai des amis qui m'ont dit, je fais pas tes cours, mais ça me travaille quand même. Toute cette conscience-là de travailler avec moins d'efforts pour plus de résultats, d'utiliser des leviers, par exemple, c'est, selon moi, prometteur aussi dans un autre axe, puis je n'irai pas seulement très loin là-dedans, mais tout l'axe au niveau du travail également.
Mélina, parlez-nous de votre entreprise Corps Créatif.
Oui, mais en fait, c'est une deuxième entreprise que j'ai créée, en fait, il y a 2 ans. Et c'est encore en démarrage, en fait, parce que j'ai encore du travail dans mon, en lien avec l'ancienne entreprise Les Passeuses, dont on pourra parler.
Oui.
Mais Corps Créatif, en fait, ce que je pourrais dire, je suis revenue comme solopreneur, donc en solo, ce que ça veut dire, c'est d'être seule dans mon entreprise.
Oui.
Parce que, entre autres, avec la fatigue chronique, j'avais besoin de vraiment moduler mon horaire en fonction de mon énergie et d'aller vers un nouveau projet, ça me permettait de revenir en solo. C'est une entreprise où est-ce que je vais offrir des cours à des organismes. Par exemple, je donne des cours à la Société de sclérose en plaques en virtuel à travers le Québec pour cet hiver. Et à des centres de femmes aussi, je me déplace soit pour donner des cours à leur clientèle, donc à des femmes qui fréquentent le centre de femmes qui sont membres. Et prochainement, cet automne, je vais donner une formation au centre de femmes du Témiscouata, donc quand même une petite route. Mm-hmm. Mais je vais à la rencontre d'une équipe de travail où j'ai donné des cours l'hiver passé. Et je vais les former cette fois, ça va être une première et c'est vraiment un rêve qui se réalise.
Mm-hmm.
Je vais les former à l'approche de l'éducation somatique qu'elles ont découvert et aimé grâce aux cours que j'ai donnés à leur clientèle et certaines intervenantes ont assisté. Et je vais à leur rencontre pour leur donner cet outil-là, ce bagage-là, finalement, d'éducation somatique, particulièrement sur chaise, c'est ma spécialité. Et je vais travailler avec elles pour voir comment elles peuvent utiliser cette approche à la fois pour enseigner elles-mêmes des cours et aussi dans leurs interventions auprès de leur clientèle. Donc, d'avoir une approche corporelle pour leurs interventions sociales aussi.
Mm-hmm. Vous dites sur chaise.
Oui.
Quelle sorte de chaise?
Oui, c'est ça.
Chaise droite,
oui, c'est
chaise...
Ça. Donc, la plupart des gens vont être sur une chaise standard, donc une chaise, effectivement, une chaise en bois, une chaise droite. Mais le fait d'enseigner quelque chose qui s'effectue sur chaise, ça permet également, par exemple, aux gens qui suivent mon cours en virtuel, qui ont la sclérose en plaques, à peu près la moitié des gens qui assistent au cours ont une mobilité très réduite.
Ah oui,
et
d'accord.
Elles ont des chaises roulantes ou des chaises adaptées. Elles peuvent suivre le cours que j'offre grâce à cet enseignement-là qui est adapté sur chaise.
Est-ce que le contenu est le même pour les gens qui souffrent de... qui sont aux prises avec la maladie de sclérose en plaques et les femmes... Des centres de femmes?
Au départ, j'enseignais différemment. Au départ, par exemple, au centre de femmes, j'enseignais au sol. Et je me suis assez vite rendu compte que malgré l'absence d'un handicap précis, c'était quand même un défi pour plusieurs de s'allonger au sol, de se mettre, par exemple, sur le ventre ou de rouler. Donc, c'était quand même un frein à leur pratique. Et j'en suis venue à, finalement, homogénéiser tout ça. Donc, l'ensemble des cours que j'enseigne sont sur chaise et ça permet aux femmes qui ont, par exemple, des raideurs, des douleurs importantes, de venir assister à un cours. Et parfois, même juste d'être sur chaise, d'être présente pendant une heure, pour elles, c'est beaucoup. Donc, ça me permet, finalement, de développer cette expertise-là d'enseignement sur chaise. Et j'adapte, je continue à avoir de la formation continue avec ma professeure Hélène Lévesque, qui, elle, m'enseigne des choses qui sont au sol ou sur table, et je l'adapte pour en mode assise.
Et est-ce que quelqu'un qui est en présentiel peut décider après, finalement, de le faire en virtuel?
Pas encore. En fait, c'est dans mes projets, là, finalement, d'avoir une bibliothèque, finalement, d'exercices sur chaise en différé. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas encore le temps de développer parce que j'ai plusieurs demandes. Donc, ce qui est très populaire en ce moment, c'est davantage le direct. C'est vraiment le direct, soit en virtuel et dans les centres de femmes. Et il y a une valeur, finalement, à la présence, au fait que j'observe les gens, que je peux répondre à leurs questions. Donc, je réponds davantage aux besoins, je crois, pour l'instant, de cette façon-là.
Oui, c'est ce que je me disais. Est-ce que c'est pas difficile d'enseigner cette technique-là en virtuel?
Assez facile, en fait.
Ah bon?
Je pense qu'on s'est habitué. Il y a aussi l'expérience, en fait, avec les passeuses. On a enseigné à près de 500 personnes en mode virtuel, hein, parce que nous, on a démarré une entreprise en plein hiver COVID. Donc, on pensait donner des formations présentielles. On s'est rapidement tourné de bord, comme on dit. Mais on a donc enseigné pendant 3 ans en mode virtuel et on finit par développer certaines stratégies pour voir, malgré que l'écran, ça soit plus limité qu'en personne, quand même saisir le non-verbal, c'est très, ça reste très parlant. C'est plus fatigant pour les apprenants puis, et pour l'enseignement. En même temps, ça permet aux gens de ne pas avoir à se déplacer parce que ce n'est pas toujours simple. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas capables de se déplacer avec, juste avec la neige, par exemple. Ça rend ça complexe.
Et est-ce que vous avez un studio, en fait?
C'est ma chambre. Donc, carrément. Mais en même temps, c'est vraiment un mur blanc et c'est vraiment, comment je peux dire... presque une façon de vivre, je dirais. Ma chambre, mon bureau, mon enseignement se déroule. Évidemment, je n'enseigne pas dans mon lit, là. J'ai quand même... Il y a un d'un côté, il y a mon bureau de l'autre. Et, mais ça, c'est comme, je dirais, ma façon de pouvoir me transporter dans un univers qui est assez minimaliste. Ma chambre est en mode minimaliste. Et je dirais que ça me, je connecte avec le vécu de la sclérose en plaques. C'est pour moi une façon de connecter, de faire face à un deuil qui était le deuil du voyage. Hein. Ça nous amène sur autre chose, mais je fais juste une petite parenthèse.
On parlait des deuils au
début.
Oui,
c'est ça, exactement.
Absolument.
Et j'ai aimé voyager avant d'avoir un diagnostic. Et pour moi, le voyage, c'est de se déplacer avec un pack-sac, d'avoir peu d'objets, d'avoir une simplicité dans ce qu'on possède. Et le fait d'avoir une petite chambre simple, je dirais minimale, me permet de jumeler tout ça tout en étant à l'aise et confortable.
Et parlez-nous de l'autocompassion,
oui.
Mélina.
Oui, tout à fait. Bien, ça me passionne et j'ai travaillé cet automne. J'avais moins de contrats précis. J'ai travaillé sur un livre, en fait. J'ai un livre qui est en cours d'écriture qui s'appelle « L'autocompassion par l'éducation somatique ». Donc, c'est 30 exercices sur chaise à faire de chez soi. Et ça a été un extraordinaire exercice, surtout de trouver le titre. Donc, ça a pris du temps avant de trouver le titre. Et c'est devenu une évidence. Et quand je l'ai dit à mes amis, « Ah, c'est l'autocompassion qui est au cœur de ce que je veux faire », mais elles m'ont dit « Évidemment ». Et ça vient connecter aussi avec mon vécu de sage-femme dont on pourra parler.
Oui, absolument. Et est-ce que vous croyez que l'autocompassion, c'est la même chose que, au début, vous disiez, j'ai développé de la bienveillance avec moi par cette technique?
J'avoue que j'utilise les deux de façon...
synonyme?
Bien, pas exactement.
Non.
Dans le fond, la bienveillance, on parle de bienveillance pour l'ensemble. L'autocompassion, mais le mot auto vient dire qu'on la dirige vers soi. Je trouve que c'est très puissant et c'est très parlant. Quand on dit autocompassion, on comprend tout de suite qu'on parle de compassion envers soi.
Écoutez Vivement les femmes avec Marthe Saint-Laurent.
Je suis en compagnie de Mélina Castonguay, fondatrice de Corps Créatif. Alors, Mélina, on a parlé à quelques reprises que vous êtes sage-femme. Vous ne pratiquez plus, mais vous êtes sage-femme. Est-ce que la sclérose en plaques vous a fait dévier de votre parcours professionnel?
Assurément, mais en même temps, vers de belles voies, j'ai envie de dire. Quand... peu longtemps après mon diagnostic, j'ai dit à une amie qui en revenait pas. C'est sûr qu'elle me voyait de l'extérieur, puis j'ai dit, ben j'ai un diagnostic. Ça veut donc dire que ma carrière comme sage-femme standard, là, dans la façon dont la pratique est prévue, sera assurément courte. Et je lui ai répondu, ben ça me permettra de faire autre chose. Elle me regardait un petit peu débitée en disant, ouais, c'est une façon de le voir. Puis en effet... Mais ce désir-là de faire autre chose était déjà présent. Donc, ça l'a déjà répondu, ça répondait déjà à
Et
quelque chose qui était...
Et pourquoi vous vouliez déjà faire autre chose?
Bien, en fait, oui, c'est ça. Bien, je suis comme pressée dans la vie. C'est pour ça que j'apprends la lenteur, j'essaie du moins. Et en fait, quand j'ai appliqué comme sage-femme, j'ai appliqué à la fois comme sage-femme ou pour les études, au baccalauréat en pratique sage-femme, puis j'ai appliqué aussi en sciences féministes, politiques à l'université. Donc, j'étais quand même déjà divisée dans un certain choix, puis en même temps, c'était cohérent d'être sage-femme parce que ça combinait l'ensemble, pas mal l'ensemble de tout ça. Donc, je pense que même avant la maladie, j'avais une conscience que la vie, elle est courte, elle est temporaire, du moins, et... jumelé avec un désir de réaliser des projets, de vivre, c'est ma façon de vivre, j'avais envie d'aller d'une étape à l'autre.
Mm-hmm. Et qu'est-ce qui vous a attiré comme dans la profession de sage-femme?
Oui. Ah, ben c'est une profession qui continue de susciter mon intérêt, ma curiosité. En fait, je pense que ce qui m'a frappé au départ davantage, c'est la force des femmes qui étaient dans la profession. Je pense que c'est ça qui a été mon coup de cœur de départ avant de me dire « je vais devenir sage-femme ». C'était la force d'être de ces femmes-là qui avaient été des pionnières, qui avaient dit « nous, on va offrir des services de santé » à la maison, aux personnes qui le demandent. C'était pas illégal, mais c'était allégal lorsque les pionnières l'ont fait. Donc, ça prend quand même du caractère, du courage, un côté rebelle, de l'ensemble de tout ça, puis un côté intellectuel aussi, d'avoir mm-hmm. recherché de l'information, d'avoir lu pour offrir des soins de qualité.
La sage-femme, pour qu'on oui. comprenne bien.
Oui.
Alors, elle accompagne la mère lorsqu'elle accouche et après, il y a un suivi?
Donc, au Québec, en ce moment, les sages-femmes accompagnent lors du suivi périnatal. Et là, ça vient de changer. Mais en même temps, si on part de qu'est-ce que c'était l'année passée, là...
Oui. Donc, ça vient de changer récemment.
Je vais vous donner les nouvelles informations.
Oui.
Et donc, la sage-femme s'investit dans la sphère périnatale. Et donc, ce qui a été développé comme projet pilote au Québec et donc ce qu'on a depuis plusieurs années, c'est vraiment de s'occuper du suivi de grossesse du début à la fin et d'être présente à l'accouchement comme une professionnelle autonome. Ce qui s'est rajouté, mais qui historiquement faisait partie de la profession, donc ce qu'on a remis dans la profession, c'est des soins d'avortement. Et les passeuses, on a participé
oui.
À soutenir lors des sages-femmes, à soutenir, c'est un grand mot, mais à côtoyer, accompagner lors des sages-femmes, entre autres, pour réfléchir à cette question-là. Et lors des sages-femmes, on a été très... engagés, ils ont eu beaucoup d'audace pour aller de l'avant et dire les sages-femmes du Québec vont offrir des soins d'avortement. Et depuis l'automne, l'Ordre a envoyé un avis pour dire que elle soutenait les sages-femmes qui allaient faire des soins d'avortement parce qu'il y a eu une certaine polémique à ce niveau-là. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais les sages-femmes québécoises sont donc les premières à offrir des soins d'avortement dans une période contemporaine. Là, parce que, comme je disais, le siècle dernier, il y a eu des sages-femmes qui pratiquaient des avortements, mais dans la pratique organisée, structurée, légale, comme on la connaît, c'est récent.
OK. Et je vous entends et je me questionne dans quelle mesure une sage-femme peut aussi aider dans le processus d'avortement. Mmh. Parce qu'on a dans l'idée
populaire,
oui, que la sage-femme est en amour avec la grossesse, avec, avec les enfants, et comment on peut, en fait, être aussi respectueuse de dire, OK, il y a un choix ici et je le respecte et j'accompagne. Je trouve ça quand même assez extraordinaire.
Oui, oui, absolument. Puis en fait, ce que je dirais, c'est que je comprends cette compréhension-là, puis merci de la traduire dans ces mots. En fait, les sages-femmes, ce qu'elles soutiennent avant de soutenir la grossesse et son processus, elles vont soutenir le choix. Les femmes, midwives, ça, en anglais, ça veut dire avec les femmes.
D'accord.
Donc, au cœur d'eux, et les femmes, elles accouchent et elles avortent. Donc, ça fait partie des soins. Et par exemple, là, dans le fond, au Québec, là, on a environ 80 à 100 000 naissances par année. Les personnes enceintes vont vivre environ... il y a environ 20 000 fausses couches, voire un peu plus, parce qu'elles ne sont pas toutes déclarées par année. C'est quand même un bon nombre. Et on a environ 23 000 avortements au Québec par année. Ça fait partie des choix. Donc, ça fait partie des choix, c'est très prévalent aussi, mais c'est quand même occulté. Il y a peu de livres qui vont parler de cette réalité-là.
Oui.
Et je voulais rebondir aussi sur le plan de l'histoire, parce que j'ai lu cet hiver pour un prochain contrat que je réalise sur l'histoire de la pratique sage-femme et de l'avortement. Et j'avais cette notion-là de dire, les sages-femmes, on soutient le choix, puis on n'a pas réintégré l'avortement. Mais j'ai pu comprendre que la pratique sage-femme a probablement été éradiquée parce que les sages-femmes, en 1800 quelque, pratiquaient des avortements, oui. que ça allait, ça, non seulement ça n'a pas été réintégré, mais ça fait partie de pourquoi elles ont cessé d'exister ou ont été beaucoup illégalisées, finalement, mm-hmm. criminalisées pendant plus d'un siècle.
Oui. Est-ce qu'il y a une information ici que moi, j'ai interviewé Christine Saint-Pierre, l'ex-ministre, et puis elle me disait, au Québec, on n'a pas de loi pour protéger justement l'avortement, puis on ne le sait pas. On croit que parce que c'est devenu légal, qu'on est protégé, mais on n'est pas protégé du tout, du tout. Est-ce que vous craignez pour, pour ce droit-là que les femmes ont?
En fait, c'est ça. Bien, pour utiliser les mots justes, effectivement, parce que les gens ne comprennent pas nécessairement ce qu'il en est véritablement,
l'avortement. Je pense que la confusion est peut-être.
Ni légal, ni légal, ni même pas légal, parce qu'il n'y a pas de loi, comme vous le dites. Le Canada, en fait, est plus que toléré. Il est décriminalisé. Alors, il n'y a pas d'encadrement. Et justement, la ministre Biron réfléchissait, se souhaitait. Protéger les droits des femmes, des personnes enceintes en termes d'avortement. Et il a été décidé après des consultations, entre autres, des groupes féministes et des groupes qui connaissent bien la question de l'avortement, qu'il n'y aurait pas non plus de loi. Ça a été la demande des groupes féministes au Québec parce que les lois sont très faciles à changer. Les lois viennent aussi mettre un cadre et une fin. Et au Québec, on peut avorter du début à la fin de la grossesse et c'est le plus grand droit qu'on peut avoir.
Mélina, on doit mentionner par contre que vous êtes toujours consultante au sein de l'Association des sages-femmes. Qu'est-ce qui vous retient là alors que vous ne pratiquez plus?
Oui, effectivement. Bien, c'est en fait, je suis consultante pour l'Association canadienne des sages-femmes et c'est un contrat qui est passionnant. En fait, je soutiens les sages-femmes dans ce réinvestissement de pratique-là au niveau de l'avortement. Et j'ai une grande confiance de la part de l'association, donc ça me permet de créer un contenu court qui est vraiment extraordinaire. Et en fait, c'est le sentiment de devoir quand même, parce que je me dis, j'ai des connaissances qui peuvent aider d'autres personnes à avoir ces soins-là. Et c'est probablement une façon pour moi de clôturer ce passage-là dans le domaine reproductif.
De Montréal, Mélina, dans quel terreau avez-vous grandi? Parlez-nous de vos parents. Avez-vous des frères, des sœurs?
Oui, j'ai des frères et des sœurs. Donc, je suis l'aînée de 6 enfants. Donc, je viens d'une famille, je dirais, assez serrée. Et j'ai vécu à Montréal jusqu'à l'université, finalement. Ensuite, j'ai rencontré mon conjoint.
Donc, vous avez terminé l'Université à Montréal, c'est ça?
Dans le fond, c'est l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et lorsque j'ai commencé l'université, je suis déménagée. Ça a été toutes sortes de voyagements, le Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières. C'est un bac qui nous fait voyager.
Oui. Et puis, qu'est-ce qui vous a amené dans le Bas-Saint-Laurent, en fait?
Oui. Mon conjoint et moi, on était très passionnés de l'engagement militant ensemble. Et on a participé à la marche contre les gaz de schiste. Donc, il y a eu une marche en 2011, de Rimouski jusqu'à Montréal à pied. Donc, on était un groupe, on était une trentaine de personnes. On a fait 730 quelques kilomètres parce qu'on a fait un détour par la vallée du Richelieu. Et à ce moment, comme la marche partait de Rimouski, on a rencontré les gens de Rimouski. On a vraiment eu un coup de cœur pour la familiarité, la proximité qu'on pouvait avoir avec les gens engagés du Bas-Saint-Laurent.
Mm-hmm. Donc, c'était ça votre motivation il y a 10 ans pour venir vous installer
ici? Oui, absolument. Donc, de découvrir ces gens-là, on avait envie aussi de de voyage. Au départ, on voulait, en fait, quand j'ai rencontré mon conjoint, il me dit, ben c'est bien dommage, t'as l'air d'une très belle personne, mais moi, j'allais partir en voyage. Et j'ai dit, bon? Je pars! Donc, quand on a trouvé quelqu'un qui nous plaît, c'est ça, j'ai resté avec cette idée-là. Et,
est-ce qu'il est parti?
Donc, on est parti ensemble. Ah, et on a entamé notre voyage par cette marche-là. On avait comme désir de marcher jusqu'en Inde. Ça ne se serait pas fait et on ne s'est pas rendu jusqu'en Inde, mais on a marché Rimouski-Montréal et ensuite on est revenu à Rimouski. On a habité on a fait un travail maraîcher un peu et puis c'était surtout cet engagement social-là qui était notre point de départ ensemble. Puis il continue de l'être. On continue d'être engagés comme on peut dans notre communauté.
Et le Bas-Saint-Laurent, qu'est-ce que ça vous apporte, justement, au niveau de l'engagement? Est-ce que vous avez observé que les gens sont plus engagés dans le bas du fleuve?
On le vit peut-être différemment là, avec une famille, deux enfants. Oui. Il faut adapter les choses. Mais au départ, c'était très central et on sentait beaucoup que c'était comme un grand village, contrairement à Montréal, parce qu'il y avait un certain anonymat, parce que évidemment il y a des occasions de s'engager, mais on aimait le côté de se déplacer en ville et de rencontrer par hasard des gens qu'on côtoie. C'est des choses qu'on appréciait, puis on avait l'impression d'avoir à peu près tout ce qu'on avait besoin, outre d'être quand même loin de nos familles qui sont restées, elles, à Montréal, pour la plupart. Mon frère est déménagé à Rimouski. On est fort, fort heureux. C'est lui qui garde les enfants. Et il a fait le grand déménagement pour se rapprocher. Donc, quand même de la famille ici. Et donc, ça a été un coup de cœur d'engagement, puis on continue d'être engagés comme on peut, mon conjoint et moi, de la même façon.
Et vous êtes mariés, je crois.
Oui, c'est ça, on s'est mariés.
Vous êtes mariés ici, à Rimouski.
Après mon diagnostic, donc on en parlait un peu à la pause, mais je salue quand même son engagement parce que c'est quelqu'un qui a eu quand même une hésitation d'aller vers cet engagement-là parce que c'est vraiment mon conjoint, quelqu'un d'engagement. S'il dit quelque chose, il va le faire. Oui. Moi, je me désiste plus facilement et je suis honnête à ce niveau-là. Mais il est resté engagé et il avait conscience de mon diagnostic avant cet engagement-là amoureux. Puis en fait aussi au niveau d'avoir des enfants, il a embarqué, il a fait le saut avec moi malgré les défis qui nous attendaient.
Oui. C'était quoi les défis? Est-ce que vous voulez en parler?
Oui, c'est ça. Je le dis quand même parce que...
Durant la grossesse et même maintenant, vos enfants, quel âge?
La grossesse, là, c'est extraordinaire. Pour quelqu'un qui a la sclérose en plaques, c'est merveilleux parce que ça met une pause à la maladie. Donc, on ne sent pas les symptômes. Oui, la mobilité quand même reste réduite, mais ça vient... En fait, c'est un auto... quand on est enceinte, le système immunitaire ralentit. Donc, il arrête d'agresser le corps par rapport à ça. Donc ça, la grossesse, ça a été super, puis c'était ma zone de confort. J'ai pu accoucher à la maison deux fois.
Ah oui, d'accord.
J'ai pas pu être accompagnée par des sages-femmes, mais j'ai quand même accouché à la maison. Et c'est plus la suite de vivre avec la sclérose en plaques, d'être limitée. Quand un enfant de quelques années, donc mon plus jeune a 5 ans, quand il n'écoute pas, bien... Je peux pas courir après. Donc, il faut trouver d'autres méthodes, d'autres stratégies pour quand même le garder dans une sécurité, malgré qu'un enfant, c'est normal, ça ne veut pas toujours écouter.
Et votre fille a quel âge?
Alors, j'ai deux garçons.
Ah, deux garçons, donc, je croyais. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai dans la tête
Mika,
un garçon.
Le plus vieux s'appelle Mika, donc ça peut être...
Non, je n'avais pas leur nom. C'est juste dans la tête, je me souviens d'un garçon, une fille.
Le deuxième s'appelle Naël. Il a 5 ans, donc 9 ans et 5 ans.
Mm-hmm. Et est-ce que vos garçons sont conscients de la maladie que vous avez et quelle est leur... est-ce qu'ils ont de la compassion ou pour eux c'est normal?
C'est vraiment intéressant comme question. Et quelqu'un m'avait dit, je ne saurais pas retracer qui, mais quand j'entamais cette grossesse-là, on a fait le choix peut-être d'avoir des enfants, qui disait, l'enfant comprend d'une certaine façon quand même la limite véritable du parent. Donc, ça m'a rassurée beaucoup sur le fait que je n'avais pas les mêmes capacités que mon conjoint, par exemple, pour saisir physiquement un enfant qui n'écoute pas, mais que quand ça serait vraiment un vrai non, que l'enfant ressentirait quand même cette limite-là. Et c'est quand même vrai. Ça reste un défi. Des fois, j'aimerais ça pouvoir... dans le fond, c'est quand il n'écoute pas, puis on veut embarquer dans l'auto, pouvoir quand même être plus physiquement capable d'intervenir. Mais somme toute, ils sont dans une certaine écoute et Compréhensif, oui, on en parle. On appelle ça la maladie de jambe de maman. Oui, et mes fils sont, j'ai envie de dire, allumés. Mon plus vieux, il y a un congrès de la sclérose en plaques qui a lieu chaque année, donc pour l'espoir famille que ça s'appelle, et une bénévole m'a convaincue d'y aller, je l'en remercie. Mon fils a pu assister, puis il adore lire, donc il s'est mis à lire des cartables qu'il y avait là-bas pour les moniteurs. Lui, il s'est dit que, en tout cas, toute lecture est bonne. Puis là, l'autre fois, j'ai dit, tu sais, est-ce que tu sais, Mika, c'est quoi le premier symptôme de la sclérose en plaques? Puis il dit, oui, maman, je l'ai lu dans le cartable, c'est la fatigue. Donc lui, il a quand même à 9 ans une compréhension qui est là, et on travaille sur cette compréhension-là. Et l'enfant de 5 ans, bien, je pense qu'il nommerait pas, mais je pense qu'il comprend d'une certaine façon. Mm. Puis, assurément que j'ai plus de limites. L'autre fois, comme blague, je pourrais dire, je vais le chercher à l'école parce que c'est un plaisir pour moi de le retrouver à la fin de la journée. Et j'avais pas pris ma canne, je pense que j'étais gênée de l'utiliser ou quoi. Et il m'a dit, maman, t'aurais dû prendre ta canne, t'es fatiguée. C'est beau quand
Donc,
même.
Donc, ils prennent soin.
Oui, oui, absolument.
Mm. Puis ils sont pas gênés. Est-ce que les camarades savent que vous avez la sclérose?
Je les sens pas gênés par rapport au regard des autres. C'est qu'ils m'ont connue toujours avec cet handicap-là. Et en même temps, je reste extrêmement fière de ce que j'arrive à faire avec eux. Donc oui, il y a certaines limites. Par exemple, je leur dis franchement, le patin, c'est pas maman qui va vous le montrer. Mais il y a des grands-parents pour ça et on les remercie. Mais outre cette limite-là, je les amène à la piscine. On est capable de faire des sorties. On va à la bibliothèque. Je vais les chercher à l'école. Donc, je pense qu'ils ne ressentent pas trop de manque par rapport à ça.
Et vous, on parlait des deuils. Est-ce que ça fait partie d'un deuil de ne pas pouvoir... Ben, en fait, c'est pas un deuil parce que vous connaissez pas. Mais est-ce que vous auriez ce désir-là de jouer davantage avec eux ou de leur montrer? Ou est-ce que pour vous, c'est difficile ou c'est comme
non,
ça, c'est tout?
Non, c'est ça. De façon plus générale, quelqu'un me demandait est-ce que je vis beaucoup de deuil en ce moment? La réponse, c'est non. C'est sûr que je vis je dirais plus des inquiétudes. C'est plus comme ça que ça va se manifester. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, au niveau de veiller à la sécurité de mes enfants, c'est plus ça qui va être présent. Mais on est aussi capable de communication. Donc, avec mon conjoint, par exemple, on essaie de déterminer des règles qui sont respectueuses de ses capacités et des miennes pour qu'elles puissent correspondre aux deux parents.
Castonguay, vous vous définissez comme féministe militante. Comment s'exprime votre militantisme?
C'est intéressant. J'avais oublié que je me définissais comme militante, mais je pense que je le respire quand même. Féministe, assurément. Donc, si on commence par le premier mot, je me définis comme féministe et pour moi, une des valeurs les plus importantes, ça va être l'égalité. Et c'est très présent dans ma vie au quotidien. Donc, par exemple, c'est une discussion que mon conjoint et moi, on a, l'importance de l'égalité. Et j'ai le bonheur d'être avec quelqu'un qui comprend vraiment, véritablement l'égalité pour moi. C'est sûr que c'est à négocier, renégocier de part et d'autre. Mais c'est vraiment important à plein d'égards. Et pour moi, c'est une voie de liberté, le côté féministe, le côté soutenir la gentilité, donc le pouvoir d'agir des femmes. Et il y a encore, juste nommer qu'il y a du travail à faire encore, l'égalité n'est pas atteinte. Donc, je tiens à me définir comme féministe parce que je crois qu'il nous attend encore beaucoup de travail et parfois, il y en a qui en remettent sur la butte, sans le nommer.
je vous cite Simone de Beauvoir qui disait « N'oubliez pas qu'il suffit d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en cause. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. » Qu'est-ce qui monte dans votre cœur de féministe quand vous entendez ça?
C'est sûr que quand j'entends ça, cette phrase-là, on l'a beaucoup partagée, entre autres au niveau de l'avortement. Et c'est sûr que je suis quand même inquiète sur cette question-là. Inquiète, mais je reste optimiste parce que, bon, nos voisins du Sud, n'ont pas cheminé dans une voie respectueuse du droit humain à ce niveau-là. C'est pas en train de s'améliorer, mais je continue d'avoir de l'espoir à cet égard et je continue de travailler pour ça. Mm-hmm. Et Tout à l'heure, vous parliez de féminisme, de militantisme. Mm-hmm. J'ai envie de dire que je me définis comme militante, mais c'est un militantisme qui a pris un peu de sagesse. Donc, c'est pas le même... Pour moi, le mot militantisme ne résonne pas de la même façon qu'il résonnait lorsque j'avais 20 ans. Pour moi, à 20 ans, le militantisme, c'était quelque chose de très enragé. Il y avait beaucoup de colère. Mm-hmm. Ça reste une émotion qui peut être vécue, présente et valide. Mais je me souhaite, et c'est pour ça que j'ai passé d'une entreprise qui travaille au niveau de la défense des droits à une entreprise qui est en lien avec le bien-être corporel.
Oui, c'est vrai.
Il y a vraiment une transition mm-hmm. consciente d'avoir un militantisme qui était qui était soutenant pour les autres et pour moi-même. Oui. Donc, c'était une raison de départ par rapport à l'entreprise Les Passeuses, parce que ça devenait lourd quand même d'entendre des récits difficiles, oui. de se buter à des portes, de devoir réclamer des droits. J'ai trouvé que ça avait énormément de sens. Ça continue d'avoir du sens. Mais est-ce que c'était bon pour moi, pour mon corps, pour... Mm-hmm. J'ai décidé d'opter pour autre chose, mais de soutenir comme je parlais d'agentivité, c'est le fait de soutenir le pouvoir d'agir des gens. Je continue d'être militante, oui. mais j'ai décidé que ça serait d'une façon peut-être plus constructive ou moins dans la colère, parce que c'est usant quand même, la colère.
Oui, effectivement. On s'en aperçoit, hein, plus on avance, hein, plus c'est...
Oui. Et j'avais pas nécessairement cet espace-là, alors d'investir un espace qui était davantage dans le corps, oui. et que je trouvais qui était porteur d'autant de sens, je trouvais que c'était le meilleur choix que je pouvais faire pour la suite, que je m'octroyais le droit de choisir ça, qui était à la fois bon pour les autres et pour moi.
Oui, excellent choix. Hein. Mm. Je suis en train de lire un livre fort intéressant de Laure Adler qui s'appelle « La voix des femmes ». C'est son dernier, son plus récent. Et elle dit « Féministe, ce n'est pas une étiquette, c'est une attitude mm-hmm. ». Qu'est-ce que vous en pensez?
Absolument. Oui, parce que ça peut être utilisé à tort et pour rire et pour réduire. L'étiquette, on essaie de l'éviter. C'est une attitude, c'est un choix. Il y a quand même un côté revendication quand même de s'afficher comme tel. Mais j'irais dans son sens, effectivement. Puis si on est dans les stations, j'en donnerais une. J'aurais voulu que ce soit d'une femme, mais je reste une adepte de Noam Chomsky. Puis... Je voulais nommer un mot sur l'espoir parce que mm-hmm. Ça peut être lourd et sombre de parler des droits d'avortement quand on sait qu'ils sont mis à mal dans certaines régions du monde et qu'ils pourraient être davantage desservis, même ici, dans notre localité au Québec. Et l'histoire raconte que Noam Chomsky, qui enseigne, on sait qu'il enseigne et donne des conférences, et se fait poser des questions. Et un étudiant lui demande à un certain moment « Comment faites-vous pour garder espoir? Mm-hmm. » Je trouve cette question-là centrale, oui. la question de l'espoir.
Oui.
Et Noam Chomsky a répondu « Y a-t-il véritablement d'autres options?
Mm-hmm. »
Et je trouve cette réponse
oui.
délectable.
Oui, absolument.
Et
absolument.
Il parle, son livre s'appelle, il y a un livre sur l'optimisme. Alors, c'est l'optimisme contre le désespoir de Noam Chomsky. J'avoue, je ne l'ai pas lu. Mais je voulais faire un lien avec l'approche corporelle, et ça vient combiner l'ensemble des parties de moi-même. Je me sens très véritablement dans la gratitude de pouvoir combiner ce que je suis dans mon travail. Le programme des eaux pour la vie que j'enseigne travaille sur l'optimisme. Donc, c'est comme une pratique d'optimisme à partir du corps. Et je crois que c'est un... On en a énormément besoin pour ce qui nous attend par rapport aux crises sociales qui peuvent être présentes. Je crois que dénoncer, c'est important, mais je crois que cultiver la joie, c'est encore mieux.
Mm-hmm. Puis c'est pas facile présentement. Hein?
C'est ça. On est mis à l'épreuve et ça nous amène à cultiver.
Oui.
Cette réflexion-là sur la joie, c'est une énergie, la joie.
Oui.
Et on n'a pas besoin de la... Je parle pas d'une joie qui est fausse, qui est... falsifier, mais finalement être le cas de connecter avec soi, d'être on est en vie, c'est déjà un bon point de départ. Donc de partir de cette énergie-là, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là?
Et justement, ça m'amène à ma dernière question,
oui.
Mélina. Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin?
Parce que je sais que c'est que le temps est compté.
Oui.
Et
c'est émouvant.
J'espère pouvoir faire le meilleur usage de mon temps. Et parfois, on parlait d'autocompassion puis de bienveillance. Je vais être honnête, parfois je me juge d'être dans l'anxiété, dans le stress du temps qui court. Mais je me considère chanceuse d'être consciente que le temps, il passe et que nous avons un choix chaque matin qu'on se lève. Quelle journée il m'attend? Qu'est-ce que je choisis de faire? Et de ne pas attendre. Certaines amies m'ont conseillé à un moment donné de prendre une job stable. Vous voyez le portrait?
Oui, 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 oui.
Là, je patauge dans l'incertitude, parfois, même financière, mais cette réitération-là de « je veux faire ce qui est important pour moi », elle est cruciale.
Oh, un immense merci, Mélina Castonguet, d'avoir accepté notre invitation. Quelle belle finale. Alors, notre émission prend fin ici. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à très bientôt.